Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Rosalie Suc, mais aussi Bertie Bourdon et Hélène Lefrançois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Adèle Caglar. Dernier temps de notre série consacrée aux conséquences de l'interventionnisme et du désengagement, la double peine. Après avoir évoqué l'Afghanistan lundi, l'Irak mardi, la Syrie hier, tournons-nous aujourd'hui vers la Libye.
Ô héros, l'heure a sonné. Il est temps d'avancer comme vous l'avez toujours fait, d'un pas ferme et d'y entrer pacifiquement. Ne braquez vos armes que sur ceux qui décident de lutter, de combattre.
On nous a ordonné d'aller vers la capitale Tripoli pour la protéger de toute attaque et défendre les civils.
Nous avons avancé sur différents axes, Ain Zara, Wadi al-Rabi et Souzani. Le moral des combattants est très bon et si Dieu le veut, nous allons progresser et atteindre le domicile du maréchal Haftar.
La Libye est sur le point de s'enfoncer dans une guerre civile qui pourra irrémédiablement diviser le pays. Il faudra des années pour réparer les dégâts déjà infligés, et cela seulement si la guerre s'arrête maintenant.
8 ans après l'intervention internationale menée par la France et le Royaume-Uni sous l'égide de l'ONU avec le concours des forces de l'OTAN contre le régime de Kadhafi, la guerre fait toujours rage en Libye. Le 4 avril dernier, le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôlait jusqu'alors l'est du pays où il a œuvré pour chasser Daesh, a lancé une offensive contre Tripoli, siège du gouvernement d'accord national de Fayez al-Sarraj reconnu par l'ONU. Les troupes loyales à ce dernier lui opposent depuis 7 mois maintenant une résistance farouche et la capitale libyenne s'enlise dans l'état de siège. Plus d'un millier de personnes ont été tuées au cours de ces affrontements, près de 6 000 autres blessées, 128 000 personnes ont dû quitter leur foyer, c'est en tout cas le bilan de l'ONU qui remonte à juillet dernier. Cette énième bataille où les anciens missiles côtoient les drones ultra-modernes illustre une nouvelle fois le non-respect par un très grand nombre d'États de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU en 2011. Elle révèle aussi combien les chancelleries ont échoué à rassembler les conditions d'un retour à la paix. Alors comment le comprendre? Dans quelle mesure la situation actuelle découle-t-elle de cette intervention de 2011? Comment le jeu des puissances régionales et internationales a fini par y imposer le statu quo, enterrant tout espoir de résolution? Et d'ailleurs, qui sont les parrains respectifs des différents camps? Faute d'initiatives diplomatiques efficaces, le salut viendra-t-il des Libyens eux-mêmes? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités, d'abord ici avec moi en plateau à Paris, Patrick Hamzadeh, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous êtes ancien diplomate à Tripoli, vous avez participé, peut-être qu'on y reviendra, à une grande conférence de dialogue national à travers toute la Libye, où vous avez eu l'occasion de recueillir les attentes des Libyennes et des Libyens, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis on aura également avec nous en duplex de la haie Jalel Archaoui, on a un tout petit souci duplex mais ça va s'arranger, qui est chercheur à l'Institut des Relations Internationales de Cligendel, qui est un spécialiste de la Libye. On va commencer avec vous, Patrick Hamzadeh. Quand il a lancé son offensive militaire en avril dernier, le maréchal Haftar espérait que, assez rapidement, il allait faire tomber Tripoli et le gouvernement de Fayez al-Sarraj. Et force est de constater qu'on est un peu plus de 7 mois après et que la bataille se poursuit. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est trompé? Et puis, vous allez peut-être aussi nous faire un point sur l'état des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation d'enlisement total? Est-ce que les lignes bougent encore? Enfin, qu'est-ce qui se passe, Patrick Hamzadeh?
Bon, tout d'abord, vous savez, la guerre, c'est toujours un pari. Donc, effectivement, quand il a lancé cette offensive, est-ce qu'il était vraiment convaincu qu'il y aurait un soulèvement dans Tripoli, comme certains le disent, et qui serait accueilli, parce que les gens en avaient assez, des groupes armés, de la corruption, etc. C'est peut-être une partie du pari qu'il a fait.
Pari perdu, si c'était le cas.
Qui a été perdu, puisqu'on sait que de toute façon, les guerres, on sait toujours quand ça commence, on sait jamais quand ça s'arrête, et rien n'est écrit d'avance. Et effectivement, force est de constater que 8 mois après, les lignes ont très peu bougé. Il a subi un revers important parce qu'il avait pris une ville stratégique qui s'appelle Radian dans les premiers jours de son offensive, qui a été reprise par les forces du gouvernement d'Union nationale en juillet. Donc ça, je dirais que c'est un revers militaire. Mais depuis, les lignes ont assez peu bougé. Alors on peut dire que
même si les apparences peuvent être trompeuses, parce que il y a évidemment des frappes aériennes extrêmement fortes, et c'est peut-être d'ailleurs que ça masque précisément le fait que les choses ne bougent pas beaucoup.
Bah, vous savez, souvent, l'utilisation des bombardements aériens, c'est aussi pour... c'est un aveu d'échec, finalement. Oui, c'est-à-dire que maintenant, il est dans une stratégie d'escalade avec ces bombardements qui sont quasi quotidiens. L'aéroport de Tripoli, maintenant, est fermé à cause de ces bombardements. Il y a eu un bombardement sur un objectif civil, la semaine dernière, avec des victimes civiles. Bon, ça a été beaucoup commenté dans la presse libyenne et sur les réseaux sociaux. Des petites filles ensevelies sous une maison. Donc, on a vu les photos circuler. Ça a été un gros choc. Donc, je pense qu'il y a actuellement une escalade essentiellement sous forme de bombardements avec des drones, mais aussi avec des avions de combat. Et là, c'est des bombes, enfin, ou des missiles beaucoup plus lourds, donc ça fait beaucoup plus de dégâts. Je dirais qu'on a en ce moment en Libye finalement c'est un petit peu un théâtre d'expérimentation de toutes ces nouvelles technologies, puisque les deux camps utilisent des drones. Les deux camps utilisent aussi des mercenaires. Donc ça, c'est un élément aussi important, c'est qu'en fait, il y a une internationalisation, je dirais, croissante du conflit, soit sous forme de soutien de pays directement, soit sous forme d'envoi ou de recrutement de mercenaires.
On va voir justement comment
les deux camps.
On va voir justement comment les pays de la région soutiennent précisément ces deux camps. On a fait la liaison avec l'AED. Jalel Archaoui, vous nous entendez?
Oui, bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. On évoquait avec Patrick Hamzadeh à l'instant ce qui semble être effectivement aujourd'hui un enlisement. Cette offensive du maréchal Haftar, eh bien, elle n'a pas permis en tout cas de faire tomber le gouvernement de Tripoli. Regardons peut-être les conséquences de cet enlisement précisément. Jusqu'ici, c'est vrai que le maréchal Haftar bénéficiait d'un soutien assez fort d'un certain nombre de pays, notamment des Occidentaux. Alors pour ce qui est des Occidentaux, c'est pas un soutien très très visible, trop, on n'affiche pas trop ce soutien, c'est beaucoup plus ostensible du côté de d'autres pays, je pense par exemple à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite par exemple, mais est-ce que cet enlisement que nous décrivait à l'instant Patrick Hamzadeh, il peut remettre en question précisément ce soutien des puissances extérieures, et en particulier celle des Occidentaux? Jusqu'où est-ce qu'aujourd'hui Haftar est fragilisé justement par cet enlisement?
En théorie, ce à quoi on assiste depuis le 4 avril est un échec tactique militaire, et il aurait dû être sanctionné par justement un changement d'attitude de la part des États du Golfe et des États occidentaux qui jusque-là avaient fait preuve d'une immense complaisance par rapport au maréchal. Ce qui ne veut pas dire qu'il faisait partie d'une espèce de complot, c'est pas ça du tout. Je pense que l'idée du 4 avril était une idée individuelle du maréchal Haftar, qui était très conscient justement de ce soutien qui était devenu maintenant enraciné et structurel. Et depuis presque 7 mois, il y a eu le temps d'avoir des changements de comportement concrets. Dans la réalité, on assiste à l'inverse. On insiste à une complaisance accrue. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, au niveau de la communauté internationale, en avril, mai, juin, un choc assez sincère. Il y avait un rejet de cette violence quand même qui est non nécessaire à plusieurs égards.
Quand vous dites communauté internationale, là en l'occurrence, vous parlez des Occidentaux?
Je parle des Occidentaux, ouais, parce que ce sont eux qui déterminent quand même l'atmosphère au niveau d'organes comme l'Union Européenne ou l'ONU surtout. Il y a une acceptation, une acceptation de l'échelle temporelle. Cette offensive aurait dû, dans les mots du maréchal lui-même, aurait dû marcher en 48 ou 72 heures. Là, on est plus de 202 jours après. Et il y a une acceptation qui est de plus en plus profonde. Il y a le fait que ça fait partie des meubles, le fait qu'il y ait des civils qui meurent, qu'il y a des combattants des deux côtés qui meurent. On parle de grosso modo 15 par jour. Ça ne choque plus personne. Il y avait une urgence, par exemple, de la part de la chancelière Angela Merkel, qui a essayé de contribuer en introduisant cette idée d'une nouvelle conférence de Berlin. On parlait du fin octobre, début novembre. Et là, il y a toujours pas de date. On prend son temps. Il n'y a pas le feu au lac. Et cette acceptation...
Jalel Archaoui, oui. C'est peut-être aussi parce qu'on sait que c'est peine perdue. Il y en a déjà eu des sommets. On parlera tout à l'heure de celui qui avait été organisé à Paris par Emmanuel Macron. Ça n'a rien donné.
C'est vrai, mais une conférence qui a lieu avec un rythme assez urgent, avec un, comme je le disais tout à l'heure, une espèce d'impulsion de refus de cette détérioration au niveau sécuritaire, ça a été quand même une occasion au moins théorique de repousser, de remettre à jour, si vous voulez, ce lien qui existe entre les différents États et le maréchal Haftar. Le fait de ne pas avoir de conférence, c'est une carte blanche. Et c'est ça que je voulais dire un petit peu par rapport à cette division du labeur entre les puissances occidentales qui ne font pas grand-chose, vous avez raison de le dire, et les États du Golfe, les Émirats arabes en premier, qui font tout le sale travail en termes de violation de l'embargo contre les armes et ainsi de suite. Et le rôle des Occidentaux, c'est simplement d'instaurer ce silence. Et ce silence-là est idéologique, c'est quelque chose qui n'est pas neutre.
Patrick Hamzadeh, réaction à ce qu'on vient d'entendre à l'instant, à la fois c'était sur la question de l'immobilisme diplomatique des Occidentaux, peut-être même leur impuissance, et je vais revenir aussi sur ma question initiale de savoir si aujourd'hui Haftar est un peu fragilisé ou pas du tout. Est-ce que ça peut aussi peut-être bénéficier tout cela à Sarraj qui, rappelons-le quand même, a été mis à la tête de ce gouvernement sous l'égide quand même des Nations Unies. Donc a priori, c'est celui qui est désigné comme étant le maître de la transition politique en Libye, a priori. En tout cas, c'est comme ça que ça a été fait. Patrick Hamzadeh.
Alors tout d'abord, première petite chose pour compléter ou réagir un peu ce que disait Jalal, sur le processus engagé par les Allemands, je pense qu'il y a effectivement eu un report. Pourquoi ? Hein ? Parce que les Allemands ont compris, et je trouve que c'est plutôt fin, et c'est un signe, c'est un bon signe, à mon avis, que les réunions du type la Salle-Saint-Cloud, Paris ou Palerme ont été des échecs. Pourquoi ont été des échecs ? Je pense qu'ils ont compris que faire venir des partis si il n'y avait pas la perspective d'un accord avant, en tout cas, je parle là des internationaux, une réunion ne pourrait rien donner. Donc en fait, ils font une série de réunions. Ils ont commencé en marge de l'Assemblée générale du Conseil au mois de septembre. Ils en ont conduit d'autres à Berlin. Ils invitent un certain nombre de pays en bilatéral pour voir effectivement, écouter les propositions des uns et des autres et voir quel est le plus petit commun dénominateur qu'ils peuvent avoir et quelle base de compromis ils peuvent avoir. Donc, et tant qu'ils n'auront pas effectivement réuni un minimum de consensus, ils feront pas de réunion. Parce qu'effectivement, ça sert à rien, et Merkel a tout à fait raison, de perdre sa crédibilité, de faire une grande réunion à Berlin, si c'est pour faire des déclarations vides, sans aucune conséquence. Donc c'est pas forcément, je dirais, une volonté de désengagement ou de ne rien faire d'Angela Merkel, c'est simplement une forme de réalisme et d'essayer justement d'arriver à une réunion dans les meilleures conditions possibles. Donc on verra si elle se fait. Hein, maintenant, il y a effectivement des pays qui ont des positions très affirmées, Jalal l'a dit. Alors, sur l'Occident aussi, est-ce que finalement, quel moyen de pression on a réellement, et ça c'est une nouvelle donnée stratégique, quel moyen de pression l'Occident peut avoir effectivement sur les Émirats ou sur même sur l'Égypte. Vous voyez, ça c'est important à dire. Je pense que ces pays ont une autonomie militaire, on le voit au Yémen, ils ont des capacités militaires démesurées par rapport à leur poids démographique par exemple, et ils ont des capacités effectivement de déstabilisation. Donc est-ce qu'effectivement il y a un consensus pour pouvoir arrêter ce type de politique? Je pense que c'est extrêmement difficile et on voit bien que la position européenne en plus sur cette affaire est pas une position forte. Hein. Il y a eu pendant longtemps, on va le voir tout à l'heure, des divergences un petit peu entre la France et l'Italie. Je pense que c'est en passe d'être réglé. Il y a beaucoup plus de maintenant, je pense, de choses en commun, mais pendant longtemps, ça a empêché aussi une position forte européenne.
L'Europe, c'est une chose, mais il y a quand même les Nations Unies. Rappelons que dès 2011, l'ONU impose un embargo sur les armes et visiblement, il est allègrement bafoué. Je vous propose d'écouter le secrétaire général des Nations Unies. C'était il y a quelques semaines.
En ce qui concerne les frappes aériennes, les avions sont libyens pendant la journée. Mais je pense qu'ils sont étrangers la nuit et leurs frappes sont beaucoup plus précises.
Sans un vrai mécanisme de mise en application, l'embargo sur les armes en direction de la Libye ne sera plus qu'une plaisanterie cynique. Certaines nations alimentent ce conflit. Les Nations Unies devraient y mettre fin.
Voilà, c'est pas du tout le secrétaire général des Nations Unies. C'était d'abord un combattant fidèle au gouvernement d'union nationale, et puis Hassan Salamé, donc chargé par les Nations Unies de ce dossier libyen. C'était en mai dernier. Patrick Hamzadeh, je continue un tout petit peu avec vous. Faut peut-être un peu expliquer les choses aux auditeurs, parce que tout le monde ne sait pas quels sont les pays qui se trouvent derrière les uns et les autres. Il y a effectivement visiblement des drones qui sont utilisés du côté Haftar, du côté du gouvernement d'Union nationale. J'aimerais savoir qui fournit ces armes, qui finalement enfreint cet embargo qui a été décidé par les Nations Unies, et qu'est-ce qu'on peut attendre précisément de l'ONU ? Comment se fait-il qu'on ne parvienne pas à tordre le bras de ces pays qui enfreignent cet embargo ? Patrick Hamzadeh.
Bon, alors tout d'abord, schématiquement, du côté de l'armée nationale arabe libyenne, comme il l'a baptisé, donc du maréchal Haftar, on a les grands parrains. Je dirais que ce sont les Émirats, hein, donc les drones qu'il utilise viennent des Émirats, l'Égypte également, qui soutient fortement le maréchal Haftar.
En envoyant ses propres avions.
Et puis on a aussi, sur un mode un petit peu différent, mais je pense qu'il va évoluer, hein, dans les mois à venir, on a la Russie. Hein. Alors, directement ou indirectement, mais on a vu ces derniers jours, il y a des mercenaires russes.
Ouais. On va revenir sur la Russie. Donc Émirats Arabes Unis, donc voilà. Égypte, ça c'est côté Haftar. Côté gouvernement d'accord national de Sarraj.
Bah, ils sont assez. En fait, quand ils ont subi cette offensive au mois d'avril, ils étaient totalement isolés. Personne ne les a soutenus, à part quelques déclarations d'intention assez vides. Et donc, le seul pays finalement vers lequel ils se sont tournés et qui a répondu à leur demande, c'est la Turquie, principalement. Donc, qui a aussi dans une moindre mesure, on peut pas non plus comparer, je pense, le soutien turc avec le soutien du Golfe, mais qui a mis à disposition des drones avec Made in Turquie, avec sûrement des opérateurs aussi pour former les Libyens au pilotage de ces drones.
Jalal Archaoui, sur cette question des armes et des soutiens extérieurs, plusieurs questions. D'abord, comment expliquer l'incapacité des Nations Unies à imposer en pratique cet embargo sur les armes? Et puis, je voudrais comprendre cette entrée en jeu de ces acteurs du Golfe, parce que pendant longtemps, on a eu l'impression que la Libye, c'était surtout un terrain d'affrontement entre les puissances européennes, et en particulier évidemment la France et l'Italie, on en parlera tout à l'heure. Depuis quand est-ce que ces États du Golfe sont entrés dans ce conflit libyen, et finalement, qu'est-ce qu'ils y cherchent ? Jalal Archaoui.
Tout d'abord, pour les Nations Unies, il faut jamais confondre les Nations Unies avec une véritable puissance étatique. Ce n'est que la somme des États qui habituellement ont une grande influence. Donc, à partir du moment où, dans le cas libyen, par exemple, il y a une sympathie américaine, russe et française, donc on a déjà trois membres permanents du Conseil de sécurité qui ont fortement quand même, il y a un biais absolument clair vis-à-vis, en faveur du maréchal Haftar, eh bien, ça suffit pour paralyser l'ensemble du Conseil de sécurité.
Je suis d'accord avec vous, évidemment, mais précisément, ça pourrait permettre de, au moins, pénaliser ceux qui soutiennent le gouvernement d'accord national de Sarraj.
Il n'y a pas une tentative.
En l'occurrence, la Turquie.
Pour la Turquie, vous aurez beaucoup, beaucoup de gens qui sont absolument motivés pour venir sanctionner et critiquer la Turquie. Il n'y a pas de problème.
Mais justement, mais ce n'est pas le cas. Dans le dossier libyen.
Si. Dans le processus de Berlin, il y a clairement, c'est clairement prévu. D'accord. Et même, je dirais même que la Turquie est prête à accepter le fait qu'on lui gronde dessus, si je puis dire. Par contre, d'accord, dans le format de Berlin qui commence à émerger, la notion selon laquelle les Émirats Arabes Unis violent l'embargo contre les armes est une notion qui n'existe pas encore. Donc là, il y a une asymétrie qu'il faut souligner.
D'accord. Alors, sur l'entrée en jeu des monarchies du Golfe.
Oui. Alors ça, c'est vraiment le lendemain de janvier-février 2011. C'est-à-dire que il y avait déjà la guerre américaine en Irak qui avait beaucoup perturbé tous ses alliés arabes. parce que chacun d'eux avait vraiment demandé à ce que les Américains n'aillent pas renverser une dictature sunnite en Irak. Ils l'ont fait, ils ont vu les conséquences. Et puis après, il y a eu la trahison sur Hosni Moubarak. À partir de là, on assiste à une volonté de prendre les choses en main. Et ce sont des préoccupations qui d'abord sont idéologiques. Il faut se souvenir que dans le cas, par exemple, de la Libye, il s'agit d'un grand pays avec un emplacement géographique très enviable, une grande richesse hydrocarbures et minérales d'une manière générale, avec une toute petite population de 6 millions tous sunnites, donc il n'y a pas véritablement de division sectaire ou confessionnelle. Et ça veut dire quoi concrètement du point de vue des monarchies du Golfe, qu'elles soient de type Qatar ou Émirat? C'est que n'importe quelle idéologie a une forte chance de réussir. Et à partir du moment où une idéologie, par exemple celle des frères musulmans qui était sortie presque artificiellement renforcée au lendemain de 2011, eh bien il y avait un fort risque que Tripoli, dominé par les frères musulmans ou les révolutionnaires de manière générale, réussisse et fournisse un modèle pour les autres républiques sunnites, comme l'Égypte. Et on se retrouverait donc avec une contagion idéologique qui irait jusqu'à la péninsule arabique. Et ça, c'est la première motivation. Donc il s'agit d'un souci idéologique avant les considérations de type hydrocarbures ou économiques ou portuaires et ainsi de suite. Des préoccupations qui existent, mais elles sont secondaires par rapport au souci idéologique.
Et en tout cas, c'est une entrée en jeu qui, en réalité, s'est faite quasiment au début. Patrick Hamzadeh.
Moi, là-dessus, j'ai quelque chose à ajouter.
Et puis ensuite, j'aurai une question à vous poser.
Je crois qu'on a tendance à oublier. Il y a sûrement une question idéologique. D'abord, c'est nous qui avons demandé, qui avons besoin en 2011 d'une caution arabe. Hein, Nicolas Sarkozy avait besoin de la caution de pays arabes pour ne pas se présenter encore une fois comme l'agresseur d'un pays arabe. Donc d'avoir des arabes dans la coalition, c'était une condition, je dirais, nécessaire et suffisante pour qu'il y aille vraiment. Et un des premiers appels qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2011, c'était l'émir du Qatar. Est-ce que vous êtes prêt à être avec nous dans cette affaire? Bon, on sait qu'il y avait une vieille rivalité entre le Qatar et Kadhafi, bien sûr. Donc le Qatar s'est engagé rapidement dans l'opération. Les Émirats également. Et dès cette époque, il y avait déjà une rivalité entre le Qatar et les Émirats au sein de la coalition. Hein, donc chacun soutenait son poulain. Donc je dirais que cette affaire, effectivement, il y a une genèse qui remonte. Mais à l'époque, ils y ont vu un moyen aussi d'avoir une présence stratégique au Maghreb. Hein, et ça, c'est une vraie rupture, parce qu'on a maintenant un champ d'application qui dépasse largement le théâtre du Golfe. Et c'était une façon aussi pour des petits pays, vis-à-vis de leurs voisins, de montrer qu'ils avaient une capacité stratégique, une capacité militaire. Donc oui, il y avait peut-être un petit peu d'idéologie, mais il y avait aussi des intérêts stratégiques, plus vastes.
Patrick Hamzadeh. Si on revient un peu à 2015 et les accords de Skhirat signés du côté du Maroc, qui aboutissent donc à la formation du gouvernement d'accord national de Sarraj, on se dit à ce moment-là, Patrick Hamzadeh, et je me souviens qu'on en avait parlé ici à ce même micro, on se dit que peut-être on peut aller vers la paix du côté de la Libye, et finalement le miracle n'a pas lieu. Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que un soutien plus fort, plus affirmé, plus clair des Occidentaux aurait pu permettre à Sarraj d'organiser la transition et de sortir du chaos? Est-ce que c'est ça qui a manqué?
Non, je pense qu'en 2015, il y a quelque chose qui a manqué, c'est que les accords de Srelat n'étaient pas inclusifs. En fait, toutes les parties n'étaient pas représentées à Srelat. Le processus même était, je dirais, un petit peu vicié dès le départ. Et le pari de la communauté internationale, c'était justement que ça prendrait ensuite. Bon, ça a pris dans une certaine mesure à l'ouest, mais ça n'a pas pris partout. Voilà. Donc, on voit qu'effectivement, le Parlement qui n'a jamais ratifié, d'ailleurs, l'entrée en fonction du gouvernement d'Union nationale, n'a finalement jamais été dans la boucle.
À qui la faute si ça n'a pas été suffisamment inclusif?
Après, c'est toujours difficile de mettre... Bon, à l'époque, c'était Bernardino León qui était aux commandes, hein, et qui a piloté ces réunions. Donc, je pense que là, il y a... Bon, on va pas maintenant refaire l'histoire, mais je pense qu'il y a eu des... Il faut bien comprendre que toute réunion ou tout processus qui n'est pas inclusif en Libye n'a aucune chance de fonctionner.
Donc, en Libye ou ailleurs, d'ailleurs.
En Libye ou ailleurs, bien sûr. Donc, à partir du moment où vous avez des groupes sociaux, hein, ou à plus forte raison, des groupes armés ou des opposants de l'étranger, par exemple, je prends l'exemple des kadhafistes, hein, des anciens kadhafistes qui n'étaient pas dans le processus de Srelat, ces gens-là avaient tout intérêt, effectivement, à ce que le processus échoue. Ça c'est une première raison. Ensuite, il y a eu la question des accords de sécurité à Tripoli, qui n'ont jamais été vraiment réglés, c'est-à-dire que finalement, on a remis la sécurité du gouvernement d'Union nationale entre les mains d'un cartel de milices à Tripoli. Même si on pouvait imaginer que tout ça se finisse bien, mais ça a fourni le principal prétexte à Haftar, hein, les milices et la corruption, c'était les deux principaux prétextes de son intervention, enfin de son offensive du mois d'avril. Donc je dirais que il y a un certain nombre de choses qui ont été sans doute sous-évaluées et mal prises en compte à Srelat.
Djalel Archaoui, même question, est-ce que vous avez la même analyse que Patrick Hamzadeh s'agissant de ces accords qui n'auraient pas été suffisamment inclusifs? Et moi, je voudrais en remettre une couche peut-être sur un manque quand même de soutien des Occidentaux et peut-être en particulier des États-Unis, et savoir dans quelle mesure est-ce que ça peut être aussi l'une des raisons de cette impossible sortie du chaos. Parce que rappelons qu'après son départ de la Maison-Blanche, Barack Obama avait expliqué que peut-être la pire erreur de sa présidence en termes de diplomatie, ça avait été précisément le manque de suivi après l'intervention militaire en Libye en 2011. Il avait reconnu que les États-Unis et leurs alliés auraient pu faire plus. Mais à l'époque, disait-il, l'administration américaine était très désireuse de passer la main à ses alliés dans l'opération, donc se sont délibérément désengagés. On notera d'ailleurs au passage qu'on parle beaucoup de désengagement avec Trump. En réalité, ce désengagement, il est beaucoup plus structurel et il existait déjà à l'époque de Obama. Mais est-ce que, refaisons peut-être aussi l'histoire, comme disait tout à l'heure Patrick Hamzadeh, est-ce que si les États-Unis avaient davantage marqué leur soutien et s'étaient davantage impliqués dans ce conflit libyen, est-ce que les choses seraient différentes aujourd'hui? Djalel Archaoui, sur ces deux volets.
Oui, alors je suis absolument d'accord avec tous les aspects qui ont été soulevés par Patrick. Je voulais juste faire quelques ajouts. D'abord, il faut se souvenir qu'en 2015, une ville côtière qui s'appelle Sirte était contrôlée par l'État islamique. Et donc, comme la vision des Occidentaux de manière générale par rapport à la Libye est relativement superficielle, c'est un petit peu le thème que j'aimerais souligner ici, ils étaient très pressés en 2015. Ils savaient qu'ils étaient en train de fabriquer un gouvernement papier-mâché qui aurait pu être plus solide s'il n'y avait pas eu cet empressement, cette hâte. Là, il y avait vraiment une volonté de régler la chose et pouvoir avoir un gouvernement qui invite une intervention militaire de sorte à pouvoir expulser Daesh ou l'État islamique de la ville de Sirte. Il y avait aussi l'urgence par rapport aux 10 à 15 000 migrants qui arrivaient en Sicile chaque mois. Et tous ces problèmes-là, en fait, ont été réglés en grande partie grâce ou via le gouvernement qui est aujourd'hui assiégé. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de relativement superficiel qui a été un petit peu improvisé, fabriqué par en grande partie la communauté internationale. Et une fois que ce gouvernement-là a rempli sa fonction, eh bien, on laisse le maréchal Haftar venir l'attaquer. L'autre, vous avez complètement raison, évidemment, d'insister sur l'importance des États-Unis. Les États-Unis ont une capacité à quand même venir restreindre et un petit peu calmer leurs alliés, comme les Émirats arabes unis. Il suffirait de quelques phrases pour modifier un petit peu le comportement des Émirats arabes unis, chose que la France ne peut pas faire. La France est plutôt en dessous dans le dossier libyen par rapport aux Émirats arabes unis. Et Donald Trump continue, vous avez raison encore une fois de le dire, un processus de retrait, de départ très très lent, très ambivalent, très variable, étalé sur plusieurs années, mais qui a commencé, je dirais, même sous le deuxième mandat de George W. Bush et qui continue depuis. Donc le désengagement des États-Unis par rapport à toute au grand Moyen-Orient est une très mauvaise nouvelle pour la Libye parce que ça veut dire que des alliés de Washington vont pouvoir se battre sans être embêtés. Aussi, je voudrais dire quelque chose par rapport à... Oui, par rapport à cette, aux fameuses milices, il faut quand même se souvenir, il ne faut pas non plus...
De quelles milices parlez-vous être...
Les milices de Tripoli, qui sont dénoncées pour leur corruption et pour aussi leur fragmentation par le maréchal Haftar.
Qui soutiennent Farage, qui soutiennent Farage.
Oui, qui soutiennent Farage, ou en tout cas qui tolèrent Farage depuis 2016. Il y avait un processus qui était conduit par le même État, je parle d'Abu Dhabi, des Émirats Arabes Unis, qui était en dialogue avec, pas toutes les milices, mais les principales. Et il y avait une idée de convergence. Il y avait l'idée que, finalement, c'était des milices qui, effectivement, sont corrompues, plus corrompues que ce qui avait été prévu, certes, mais qui avaient le bénéfice de harceler les frères musulmans, qui étaient plutôt opposés à l'islam politique. Et de ce point de vue-là, elles avaient réussi à capter la sympathie de plusieurs États, dont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et dans une certaine mesure la France. Et il y avait donc cette espèce de dynamique assez lente, trop lente, manifestement, pour un homme de 76 ans, qui consistait à essayer d'aménager comme ça, garder un premier ministre faible, Sarraj, à Tripoli, et petit à petit pouvoir orchestrer une entrée en douceur du maréchal Haftar. Et la personne qui a beaucoup contribué à cet échec, je ne cherche pas à venir minimiser le caractère corrompu et voyou des milices en question, j'insiste simplement sur le fait qu'elles étaient en dialogue avec les mêmes États que ceux qui soutiennent le maréchal Haftar. Et le maréchal Haftar, en tant qu'individu, a perdu patience par rapport à cette convergence qui avait lieu, mais trop lentement. Parce que ces mêmes milices s'étaient enracinées dans les institutions de l'État, dans la Banque centrale et ainsi de suite. Donc je voudrais quand même rappeler la complicité, entre guillemets, des États qui soutiennent le maréchal Haftar par rapport à ces années. Ce n'étaient pas des États qui étaient complètement outrés par le foisonnement de la corruption à Tripoli. Parce que pour eux, ils s'y retrouvaient d'un point de vue idéologique, ils pensaient que ça allait coller. Ils pensaient que ça a marché et ça n'a pas marché.
Patrick Hamzadeh, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce point. Il y a plusieurs choses que je voudrais ensuite évoquer avec vous. Revenir sur les moteurs de l'intervention française, revenir sur la question de la Russie, vous l'évoquiez un petit peu. Est-ce que sur ce point-là, vous voulez réagir ?
Non, je suis tout d'accord. C'était bien de rajouter ça, de préciser, justement.
Sur la France, Patrick Hamzadeh, est-ce qu'on peut réexpliquer un peu aux auditeurs les raisons qui ont poussé la France à s'engager ? Alors, il y a évidemment, on sait, une enquête sur le financement... peut-être financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et donc, il y a un certain nombre de soupçons qui pèsent avec cette hypothèse qui serait que eh bien, le chef de l'État de l'époque aurait peut-être cherché, j'utilise les conditionnels, à effacer les traces de ce financement illégal en faisant tomber Kadhafi. Est-ce que, je ne sais pas si vous voulez commenter particulièrement cette hypothèse ou pas, mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est que du côté de la Grande-Bretagne, parce qu'à l'époque, nous étions main dans la main avec la Grande-Bretagne pour lancer cette intervention, du côté de la Grande-Bretagne, il y a eu une enquête pour justement essayer de voir justement comment est-ce qu'on avait déroulé le processus de décision précis. Voilà. Ce qui n'a pas été fait en France. Et j'aimerais comprendre comment se fait-il qu'en France, on n'ait pas fait un peu notre propre critique sur cette intervention qui, quand même, quand on regarde le résultat, est assez dramatique.
Oui, alors écoutez, là, moi, je vais bien sûr vous soumettre mon analyse et ma perception. Hein. Je ne détiens pas la vérité, mais j'ai beaucoup travaillé et beaucoup enquêté sur cette histoire depuis 2011 et j'ai écrit quelques articles là-dessus. Bon, effectivement, il y a eu en Angleterre une commission, mais c'est vrai que c'est dans la tradition aussi. Ils l'avaient fait pour l'Irak, ils l'ont fait pour la Libye, d'une vraie enquête parlementaire où tout a été mis à jour et ça donnait un rapport extrêmement complet où les responsabilités ont été distribuées.
Et qu'est-ce qui a été dit ?
En fait, que l'opération était totalement mal préparée, que il y avait des divergences, notamment avec les Français aussi, que les Français. Parce qu'il faut savoir que les Anglais ont été d'abord. Sarkozy a réussi à tirer le bras de Cameron pour intervenir. Hein. On viendra après sur la décision des Français, mais je dirais qu'au départ, les buts de guerre étaient différents dès le départ. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, les buts de guerre des Anglais, c'était finalement de mettre un terme, en tout cas ce qu'on nous avait présenté comme une offensive sur Benghazi, et ensuite de revenir à un processus politique. C'est-à-dire c'était un coup d'arrêt pour amener les deux parties à la négociation. La partie française, les buts de guerre, dès le départ, clairement, c'était la chute du régime. Hein. Donc ensuite, bon, finalement, c'est cette vision qu'il a emportée. Mais il faut savoir que quand les MOD et les Britanniques se sont engagés, c'était pas sur les mêmes buts de guerre. Et dans les réunions de planification entre états-majors, dès le départ, il y avait des scénarios qui étaient différents. Bon. Donc, je pense que du côté côté français, la question du financement, moi j'ai un petit peu du mal à y croire parce que c'était quand même un pari osé, dire on va attaquer Kadhafi parce que pour le faire taire. Bon, il aurait suffi que Kadhafi, dans les premiers jours de l'offensive, dise voilà, j'ai des révélations à faire et les fasse avec des documents et des choses. Oui. Et je pense que ça aurait vraiment mis Nicolas Sarkozy en difficulté. Donc c'était un pari. Il pouvait pas savoir que l'autre ne le ferait pas. Et l'autre ne le ferait pas parce qu'il ne pensait pas. Vous savez, c'était une logique un peu d'honneur que Sarkozy irait jusqu'au bout. Il dit, voilà, on a eu une bonne relation tous les deux, on a développé une coopération, et il va revenir à la raison.
Donc vous ne croyez pas à cette thèse.
Bon. Ouais. Donc je pense plutôt qu'il faut voir du côté politique intérieure. Replaçons-nous en janvier-février 2011 en France. Il y avait eu la révolution tunisienne. D'abord, où on avait eu ces déclarations de Michel Alliomari qui proposait de mettre le savoir-faire français au service de la répression. Donc, elle avait démissionné en pleine crise. Donc, la France était inaudible hein, sur un pays, pourtant, qui est quand même traditionnellement un pays proche de la France. Sur l'Égypte, on était totalement absent, puisque c'est les Américains qui, avec les militaires égyptiens, ont négocié, je dirais, le départ de Moubarak. Et donc, il a vu dans cette affaire la possibilité de finalement de jouer enfin un rôle et de placer la France du côté des peuples, des démocraties, des droits de l'homme, etc.
Bon, et avec le rattrapage.
Voilà, je pense qu'il y a eu ça. Et là-dessus, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu cette proximité avec le Qatar qui lui a fait entrevoir la possibilité très vite d'avoir des alliés arabes qui pouvaient donner une caution forte à cette opération.
Je voudrais essayer d'évoquer encore deux points. Donc, je vous demanderai à l'un et à l'autre des réponses assez courtes pour qu'on puisse ensuite accueillir Jean-Pierre Darnis et évoquer la question des relations franco-italiennes sur ce dossier-là. Les deux points. Le premier, est-ce que Jalel Harchaoui, vous avez le sentiment que aujourd'hui les leçons ont été tirées de cette intervention du côté de la Libye? Est-ce que les Occidentaux, est-ce que la France en particulier, a tiré les leçons et que d'une certaine manière, le conflit libyen aura marqué une rupture dans l'histoire de l'interventionnisme? Jalel Harchaoui.
Je pense qu'il faut faire une distinction entre interventionnisme idéaliste, libéral, de type Hillary Clinton ou George W. Bush, et dont Nicolas Sarkozy se disait véritablement un suiveur, et l'interventionnisme tout court. L'interventionnisme tout court, c'est le fait d'aimer la solution militaire, le fait d'intervenir dans le pays des autres, et ça, c'est l'interventionnisme existe, c'est une constante à travers l'histoire française, surtout en Afrique et au Moyen-Orient, et je ne pense pas du tout qu'il y ait une fracture ou une reprise de conscience ou une remise en cause par rapport à cela. Je suis en train de travailler sur un article, par exemple, qui remonte 150 ans en arrière, et on retrouve les mêmes réflexes, les mêmes modes de pensée, les mêmes perceptions de territoire, et ainsi de suite. Par contre, effectivement, il y avait cette interlude de Sarkozy, qui, après le refus de Jacques Chirac par rapport à la guerre idéaliste, donc il s'agissait de propager la démocratie libérale en 2003 en Irak, il y avait eu un refus français, et qui avait été complètement gommé par Nicolas Sarkozy. Et ça s'est traduit, entre autres, par cette intervention militaire, donc de motivation idéologique, idéaliste, qui est complètement reniée par le président Macron.
Patrick Hamzadeh, je vais vous interroger, vous, sur la question de la Russie. Vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, parce que lors des précédentes émissions sur l'Afghanistan, l'Irak et la Syrie, on a beaucoup souligné le fait que la Russie, finalement, tirait un certain bénéfice de ce désengagement occidental, et en particulier de ce désengagement américain. Est-ce que c'est le cas aussi du côté de la Libye? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a effectivement, le mois dernier, des mercenaires russes qui ont été tués du côté de la Libye, d'après un site russophone qui s'appelle Medusa. Ils appartiendraient peut-être, ces mercenaires, à une milice privé qui appartient à Evgeny Prigozhin, qui est un oligarque russe proche de Vladimir Poutine. Est-ce que cette information semble plausible? Et surtout, qu'est-ce qu'elle nous dit de peut-être la montée en puissance de la Russie sur ce terrain libyen?
Bah, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire, mais effectivement, il y a quand même des signes avant-coureurs. Est-ce que ça va se confirmer? Bon, le sommet de Sochi aussi, ces derniers jours, montre quand même...
Russie-Afrique, sommet Russie-Afrique.
Russie-Afrique, ouais. Montre que, oui, il y a une volonté de développer une relation stratégique avec l'Afrique. Hein, on peut imaginer que ça s'inscrit dans une stratégie. C'est encore, je pense, trop tôt pour le dire. Je crois aussi qu'ils ont ils ont pas totalement fait une croix sur le gouvernement du non-national, c'est-à-dire que vous savez, les Russes connaissent très bien la Libye.
Les Russes soutiennent Haftar, non?
Oui, mais
les deux.
Encore une fois, je pense que soutenir Haftar, c'est pas forcément vouloir qui l'emporte militairement. Ouais. Vous voyez, c'est très difficile, et je pense que les Russes connaissent en tout cas très très bien la Libye, et beaucoup mieux que les Occidentaux. En profondeur, il y a des relations anciennes. Ils ont un ministre des Affaires étrangères qui connaît aussi très très bien la Libye. Donc, et ils sont dans le temps long. Les Russes ont une vision du temps long. Donc, effectivement, ils peuvent très bien soutenir Haftar, mais en étant convaincus que le moment venu, Haftar devra sortir de la scène. Et de toute façon, je pense, comme l'a dit Jalel tout à l'heure, il a 76 ans et voilà, il sortira bientôt de la scène, qu'on le veuille ou non.
Les Occidentaux ont la montre, les Russes ont le temps. Merci, vous restez avec nous, Patrick Enzadeh et Jalel Harchaoui. On est dans cette série consacrée à l'intervention au désengagement, la double peine. On parle aujourd'hui de la Libye, on va s'intéresser donc aux relations franco-italiennes.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous sommes très préoccupés à propos de la Libye. Nous étions en contact ce matin avec Bruxelles et avec nos hommes à Tripoli sur ce sujet. Ma grande peur est que quelqu'un, pour des raisons économiques et par égoïsme national, mette en péril la stabilité interne de l'Afrique et par conséquent de l'Europe. La France, on parle d'un pays qui est allé faire une guerre qu'il ne devait pas faire, d'un pays qui se permet de fixer les dates d'élections présidentielles sans même consulter les autres, sans consulter l'ONU et surtout sans consulter les Libyens. Les exportations de démocratie, les interventions militaires et l'établissement de dates électorales sans consultation des citoyens n'ont jamais rien apporté de bon. Donc espérons qu'il se passe quelque chose rapidement, sinon il y a de gros risques de déstabilisation. Espérons que les pays, au lieu de penser à leurs intérêts personnels, penseront à la paix et à la stabilité.
Voilà, donc c'était assez clair, cette attaque à l'époque du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, à l'égard clairement de la France, c'était en septembre 2018. On va retrouver un nouvel invité, Jean-Pierre Darnis, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et puis conseiller scientifique à l'Istituto Affari Internazionali de Rome. Voilà, je ne sais pas si l'accent était parfait, c'était pas ma langue à l'école. Peu importe, on a vu comment, Jean-Pierre Darnis, pendant des mois, les relations franco-italiennes se sont dégradées avec un gouvernement italien extrêmement virulent et en particulier avec ce ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Est-ce que ces tensions, elles demeurent aujourd'hui, ou est-ce que précisément le fait que Matteo Salvini ne soit plus dans le gouvernement suite à son coup de force manqué a clairement marqué un retour à l'apaisement?
Alors, il y a un retour à l'apaisement, il y a des contacts. En particulier, je pense qu'on va en parler sur le dossier migration. Donc on a changé quelque part d'époque puisqu'on est re-rentré dans un processus de négociation politique avec la France. Mais le gouvernement souverainiste de messieurs Conte et Di Maio Salvini, ce qu'on appelle maintenant le gouvernement Conte numéro 1, ne faisait qu'exprimer un très fort ressentiment vis-à-vis de la France, en particulier dans le contexte libyen. Et ceci remonte à la période, on va dire, 2011-2013, voire même à une rivalité coloniale historique. Donc, il ne faut pas sous-estimer et balayer du revers les déclarations de Matteo Salvini en disant « oui, c'est un extrémiste et de toute façon, maintenant, on a changé d'époque ». D'abord, le gouvernement actuel reste fragile, M. Salvini reste une force politique qui pourrait reprendre le pouvoir, et deux, il y a des éléments de fond qui sont assez compliqués, à la fois symboliques et réels, entre la France et l'Italie, dans le contexte du dossier libyen.
Jean-Pierre Darnis, on se souvient combien l'organisation d'Emmanuel Macron d'un sommet à Paris pour essayer de mettre en place une médiation entre les différents acteurs du conflit avait irrité les Italiens. À l'époque, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça avait en plus pas marché. Le maréchal Haftar avait poliment répondu au président français que les conditions d'un cessez-le-feu n'étaient absolument pas réunies. Est-ce que cet échec a marqué la fin de l'activisme diplomatique d'Emmanuel Macron sur le dossier libyen? On a oublié les ambitions originelles? Terminé?
Écoutez, non, parce qu'après cet échec de la selle Saint-Cloud en 2017, l'agenda français est resté présent. Peut-être, et ça je pense que les collègues réunis aujourd'hui ont d'autres types d'informations que les miennes, mais peut-être y a-t-il une poursuite d'un agenda français. Moi je dirais que il y a un agenda français de stabilisation, mais ça vous l'avez assez bien détaillé sur la question des errements de Nicolas Sarkozy lors de son intervention en 2011. Il y a un agenda français antiterroriste très clair. Et cet agenda antiterroriste reste la préoccupation d'une déstabilisation terroriste dans le Sahel et en Libye, mais avec une dimension d'absence de compréhension de la part de l'Italie des raisons françaises, qui sont parfois assez peu compréhensibles d'ailleurs. Absence de compréhension de l'Italie avec avec deux axes. L'Italie croit dur comme fer et les Italiens croient que l'intervention en Libye en 2011 ne servait qu'à Total pour déloger les contrats pétroliers juteux que l'ENI, l'entreprise publique italienne, a en Libye. Et donc il y a une question de perception d'une rivalité dans une zone économique. C'est une perception qui est largement erronée, mais qui est très très forte en Italie. Et puis il y a le dossier migration, dossier des routes migratoires en provenance de la Libye, qui depuis 2013 a explosé et constitue peut-être le thème principal de la politique interne italienne aujourd'hui.
Mais alors justement, Jean-Pierre Darnis, et puis ensuite je ferai réagir mes deux invités ici à Paris et puis à La Haye, cette question migratoire évidemment en Italie, on a vu les conséquences politiques absolument dramatique aussi, avec la montée en puissance de forces xénophobes, avec des mouvements politiques, on l'a vu, qui ont surfé sur tout cela. L'arrivée de Matteo Salvini, d'une certaine manière, s'est faite précisément à la faveur, entre guillemets, de cette crise migratoire et donc de ce désastre libyen. Est-ce qu'il n'y a pas un moment en Italie où on s'est dit précisément que pour répondre à ce défi de la migration, bah peut-être qu'il fallait que du côté de l'Italie, on décide d'une intervention? Est-ce qu'à un moment, ça a effleuré l'esprit des Italiens?
Alors ça, c'est une vision, si je puis me permettre, très française. Les Italiens
ne sont pas interventionnistes.
Ouais. Ils sont beaucoup plus pacifistes. Et lorsqu'ils font des interventions, il y a quand même quelques centaines, à peu près 400 militaires italiens présents en Libye en ce moment. Mais ils le sont autour d'un hôpital et pour des missions d'entraînement. Donc si vous voulez, ils le sont sur des lignes politiques qui sont très très douces, très peu interventionnistes. Mmh. Lorsque les Italiens interviennent ou lorsqu'ils sont intervenus dans un passé récent, ils appelaient ça des missions de paix, parce que sinon le Parlement n'aurait pas accepté ces interventions. Donc en Italie, l'interventionnisme d'abord ne peut pas être décidé de la même manière qu'en France, par exemple, puisqu'il faut un vote du Parlement. Et deux, le Parlement, quel qu'il soit, actuel ou passé, ne pourra jamais voter une véritable intervention. Donc il y a quelques milieux un peu militaristes. Moi, je me souviens avoir participé à des réunions en 2011 dans lesquelles, face à la guerre civile ou au chaos qui s'installait en Libye, il y avait des personnes autour de la table, dont l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Madame Emma Bonino, qui disait, bon, il fallait quand même faire peut-être quelque chose, et les Français ont essayé de faire quelque chose. Mais c'est une voix extrêmement minoritaire, c'est une vision très très minoritaire dans l'Italie. Donc non, la question de l'intervention ne se pose pas. Par contre, celle des accords, et en ce moment l'actualité de ce jour en Italie, c'est celle du renouvellement automatique d'un accord qui date, qui remonte il y a 3 ans, un accord qui avait été fait par le gouvernement Gentiloni et qui prévoit en fait des coopérations autour des gardes-côtes, un renforcement du dispositif de sécurité libyen. Donc il y a une volonté aussi historique et peut-être un néocolonialisme intellectuel de la part des Italiens qui veulent à tout prix s'occuper de la Libye. Il y a des formes d'action, mais absolument pas.
On voit le désir d'intervenir directement sur le terrain. C'est pas dans l'ADN, si je puis dire, culturel italien.
Je conclue là-dessus. On a vu les difficultés difficultés que les Italiens ont eues à mettre en place une mini-mission au Niger, qui certes s'est déployée, mais qui a été extrêmement difficile à faire passer.
Je vais faire intervenir Djalal Archaoui et puis Patrick Hamzadeh, on arrive presque au terme de cette émission. Djalal Archaoui, vous concernant peut-être précisément sur cette relation franco-italienne qui a été mise à l'épreuve dans ce dossier libyen, est-ce que le salut de la Libye pourrait passer par une coopération enfin entre Paris et Rome pour essayer de régler cette question-là, ou est-ce que finalement le salut viendra par autre part et peut-être par le dialogue inter-libyen, quoi, du bas?
Je pense qu'il viendra d'ailleurs, malheureusement. En tant qu'Européens, on a tendance à être eurocentrique et on pense que, justement, cette mésentente qui était réelle, effectivement, pendant un moment, entre la France et l'Italie, était vraiment ce qui déterminait le désordre constant en Italie. Ce n'est pas, en Libye, ce n'était pas très important. Ce qui est important, ça reste les États-Unis, les États du Golfe, la Turquie, et finalement, l'Europe passe en second plan, et c'est un petit peu difficile pour notre ego, mais c'est la nouvelle réalité.
Patrick Hamzadeh, sur la perspective... Vous voulez réagir?
Je voulais ajouter, parce que si on n'a pas longtemps, parce que comme le thème de votre émission, c'était intervention, désengagement, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui revient souvent, c'est si cette intervention n'a pas marché, c'est parce qu'on n'a pas fait le service après-vente. Et là, je crois que c'est important de... C'est comme pour les embargos. Les gens disent, bon, finalement, on fait un embargo. Mais concrètement, le service après-vente, les gens qui vous disent ça, c'était quoi? Ça voulait dire envoyer 100 000 hommes sur le terrain pour désarmer les gens. Donc, il faut bien comprendre que on sait casser des régimes. Finalement, on le fait assez bien. L'Occident en a fait un certain nombre ces dernières années. Mais on ne sait pas reconstruire une nation et un État. Et ça ne reconstruit pas en envoyant des soldats. D'abord, aucun pays n'était disposé à envoyer des soldats en 2011, et les Libyens eux-mêmes ne voulaient pas de soldats étrangers sur leur sol. Donc, si vous voulez, on entend souvent ça, on dit oui, bon, l'intervention n'a pas marché, mais c'est l'après qui a été mal fait. Et moi, je pense que, non, l'après, une
mais
fois
alors
que
c'était parti... Si la Libye se reconstruit, c'est de l'intérieur et à partir justement de l'ancien régime kadhafiste. Je dis ça pas tout à fait par hasard parce que le fils de Muammar Kadhafi a dit il y a quelques mois que dans la perspective d'élection, si élection il y avait, il serait candidat. Le maréchal Haftar a d'ailleurs été interrogé sur point. Il a dit mais si le fils de Muammar Kadhafi veut se présenter, c'est son droit le plus naturel. C'est ça qui pourrait se passer?
Non, c'est pas du tout ça.
C'est un scénario possible.
Quand je parle de reconstruction nationale, c'est-à-dire que la Libye de demain sera pas la Libye de la Jamahiriya. Simplement, il y a d'autres forces politiques ont émergé, une autre culture politique est en train d'émerger. Ce que je veux dire, c'est que c'est un processus long, c'est un processus endogène, c'est un processus national, et que effectivement, toutes les ingérences étrangères ne font que compliquer ce processus.
Bien sûr. Voilà. Mais est-ce que un retour du fils Kadhafi est possible? 15 secondes.
C'est difficile à dire. Il se peut qu'effectivement, si un parti se présente, alors est-ce que ce sera des élections présidentielles ou parlementaires, mais on peut imaginer que s'il a un parti, il est peut-être vraiment un poids politique au sein d'un parlement.
Donc c'est même, c'est pas
président, c'est difficile. Dans les conditions actuelles, je pense que c'est difficile. Mais vous savez, on peut rien exclure. Hein. L'histoire a prouvé qu'on n'est pas à l'abri des surprises maintenant.
ثيوب مشؤوم دم اللي بيطهر الدروب في عام 96 المكان سجن بوسليم ثيوب مشؤوم دم اللي بيطهر الدروب في عام 96
Un grand merci à Jean-Pierre Darnis qui était avec nous à l'instant par téléphone. Jean-Pierre Darnis qui est notamment l'auteur de Le face-à-face franco-italien en Libye, un piège pour l'Europe, qui était paru au Grand Continent. Un grand merci également à vous Patrick Hamzadeh d'avoir été avec nous au cœur de la Libye de Kadhafi, c'était chez Lattès en 2011. Un immense merci à Djalal Archaoui qui était en duplex à La Haye. Et je remercie également les techniciens qui ont permis de faire cette liaison. C'est toujours évidemment extrêmement important pour nous de pouvoir précisément avoir des intervenants d'autres endroits, décentrer le regard. C'est tellement riche et évidemment tellement essentiel pour nous, Culture Monde. 11h53 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, 20 stations de métro ont brûlé ces derniers jours à Santiago, mais des troubles ont lieu en ce moment dans bien d'autres villes à travers le monde.
Des tensions refoulées éclatent soudain en manifestations de colère massive plus puissantes qu'aucun des tremblements de terre qu'a souvent connu mon pays. Ainsi témoigne une jeune journaliste chilienne, Camila Russo. Ce n'est pas ce qu'on attend ordinairement du Chili, poursuit-elle. Nous passons dans la région pour un phare de stabilité. Nous sommes ce voisin bien élevé où plus rien ne se passe. Mais le fait que cette colère se mette à flamber à travers l'un des pays les plus tranquilles des Amériques est peut-être le signe qu'il y a quelque chose de pourri dans ses fondations, ajoute-t-elle. De quoi s'agit-il ? La classe gouvernante chilienne, dit-elle, est fermée sur elle-même. Le peuple a le sentiment qu'elle favorise d'abord ses propres intérêts. Le fossé de la méfiance s'est élargi et les gens veulent reprendre le contrôle. Cette aspiration à reprendre le contrôle, voilà bien le seul point commun qu'on peut trouver à toute une série de colères exprimées dans les rues de bien des villes ces dernières semaines. Ce fut aussi le slogan des Brexiteurs au Royaume-Uni et l'on serait bien en peine de trouver un autre dénominateur commun à ces flambées de violence. Car enfin, que partagent les manifestants de Hong Kong et de Barcelone, ceux de Beyrouth et de Santiago, ceux de La Paz et ceux de Quito? Chaque cas est particulier. Ici, on entend défendre ses libertés locales contre les intrusions d'un pouvoir autoritaire et lointain. Ailleurs, en Bolivie par exemple, les électeurs ont de bonnes raisons de croire que le président sortant, Evo Morales, a fait interrompre le dépouillement des urnes afin de truquer le scrutin. À Beyrouth, on est exaspéré par la corruption et l'incompétence du pouvoir. Alors que les conditions de vie s'aggravent, on apprend que le premier ministre Saad Hariri a fait cadeau de 16 millions de dollars à un mannequin sud-africain dont il était épris. À Barcelone, l'aspiration à l'indépendance catalane d'une partie de la population s'exaspère.
Brice, chaque cas est particulier et cependant, ces différents mouvements de masse semblent animés par une même dynamique. Laquelle, Brice ?
Les gens descendent dans la rue, ils bombardent les forces de l'ordre de projectiles, voire incendient des symboles d'un pouvoir détesté pour crier leur haine de l'élite dirigeante. Il se pourrait qu'ils constituent le noyau dur de l'électorat populiste, celui dont la colère s'exprime par l'émeute. Et si leurs objectifs sont spécifiques, ils s'inspirent mutuellement. Les indépendantistes catalans ont organisé un forum sur le thème « Que pouvons-nous apprendre de Hong Kong ?» La France n'a-t-elle pas donné, comme souvent, le signal de départ de ces émeutes urbaines avec les gilets jaunes ? L'insatisfaction publique, met en garde le Washington Post, est en train de se propager d'une manière que ni les politiciens ni les experts ne peuvent prédire. Jeffrey Sachs, le directeur du département de développement durable de l'Université de Columbia, donne une analyse très originale de ces mouvements. Il fait observer que dans l'ensemble, ils concernent des villes riches. Le Chili est de très loin le pays le plus riche d'Amérique latine, la Catalogne, la région la plus riche d'Espagne, et les salaires à Hong Kong font rêver bien des Chinois. Le PIB par habitant de la France nous classe encore au 29e rang mondial, ce qui reste très honorable. Mais observe Jeffrey Sachs, le sentiment de liberté personnelle, l'impression de pouvoir choisir son parcours de vie, apparaissent dans tous ces pays, en net décalage avec leur niveau de richesse. À cette aune, par exemple, la France n'est classée que 69e et le Chili 98e. Dans les grandes villes telles que Paris, justement, Santiago ou Hong Kong, les jeunes ont découvert que leur salaire ne leur permettait plus de se loger décemment dans les centres-villes. Comme beaucoup de gens, ils ont été chassés par le prix des loyers vers les périphéries urbaines. Et c'est pourquoi ils dépendent d'une manière vitale des transports, qu'ils soient publics ou privés. Tout renchérissement, même minime, de leurs coûts est ressenti de ce fait comme une agression insupportable du pouvoir. Le mouvement des Gilets jaunes, souvenons-nous, est né à l'annonce d'une hausse mondiale modeste du prix des carburants. Au Chili, l'augmentation très faible, là encore, du prix du ticket de métro est à l'origine directe de l'émeute. En Équateur, c'est la fin des subventions de l'État au prix de l'essence qui a provoqué les troubles. Significativement aussi, tant à Hong Kong qu'à Barcelone, les manifestants ont bloqué les aéroports. Alors pour Jeffrey Sachs, le point commun à la plupart de ces mouvements, c'est une crise de la mobilité, tant géographique, pouvoir se déplacer librement tout simplement, que sociale, pouvoir escalader équitablement l'échelle sociale. Or, les échelons supérieurs semblent aujourd'hui monopolisés dans un très grand nombre de pays par une élite qui a trouvé les moyens de son auto-reproduction. Et mon Dieu, c'est une piste en effet.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. On vous retrouve lundi.